Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast consacré à la Formule 1, avec malheureusement l'annulation du Grand Prix d'Émilie-Romagne suite aux terribles inondations. Les images qu'on a vues sont terribles, je le disais, le bilan humain est catastrophique et ce n'est pas sans conséquence sur le calendrier des prochaines saisons, en tout cas potentiellement. On en parlera avec Stéphane. La semaine dernière, on vous annonçait le début de la Silly Season, la saison des rumeurs et le jeu de dupes qui va avec. Eh bien, aïe, c'est parti. Il a fallu une petite phrase de Toto Wolff pour lancer la question « Et si Lewis Hamilton quittait Mercedes ?» On évoquera aussi les attentes chez Aston Martin et chez Ferrari en prévision de ce Grand Prix de Monaco. D'après Alonso, c'est en principauté que ses chances de décrocher une 33e victoire sont les plus grandes cette saison. Du côté de la Scuderia, on se fait discret, mais on n'en espère pas moins. Alors faut-il y croire ? On vous donnera notre avis et notre analyse de la situation avec Stéphane Vrignot. T'es prêt Stéphane ? On a beaucoup de choses à évoquer cette semaine. Même oui. S'il n'y a pas eu de Grand Prix, paradoxalement.
Oui, quand même, encore. Et puis, on est le week-end du Grand Prix de Monaco.
Donc, impatient, évidemment. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant aujourd'hui avec d'abord... cette annulation du Grand Prix d'Émilie-Romagne suite aux inondations absolument terribles qui ont frappé cette région de l'Italie où devait avoir lieu le Grand Prix le week-end dernier. Alors, on va commencer par ce qui est de loin le plus important. On en est à 14 victimes. Et avant de dire le moindre mot sur les conséquences, sur le calendrier, sur les conséquences sportives, on va insister sur le fait qu'annuler ce Grand Prix, c'était la bonne décision.
C'est la décence qu'il commandait, de toute façon, clairement.
On est bien d'accord. Oui, absolument. Toute l'attention, toutes les énergies devaient aller au secours des populations et que la Formule 1 a fait le bon choix en se retirant de cette épreuve.
Le public ne pouvait pas assister à un spectacle comme ça alors que c'est la désolation, des drames partout dans la région. Et puis, c'était monopolisé aussi des ressources en termes de sécurité et de secours. Et ça aurait été insupportable d'assister à ça. Non, clairement, c'était la bonne décision. Et on espère retrouver l'Italie et la passion italienne pour la Formule 1 dans de meilleures circonstances un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, il faut panser les plaies.
Exactement. Alors une fois qu'on a dit ça et qu'encore une fois, on remet tout ce qu'on va dire à sa place, c'est-à-dire à 10 000 lieues de l'importance du secours aux personnes et aux populations, on voudrait tenter de prendre un petit peu de recul et de voir quelles sont les conséquences possibles de l'annulation de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne et de l'éventuelle décision de prolonger l'accord entre la Formule 1 et Imola d'une année, Stéphane, parce que ça ne serait pas anodin.
Oui, ça crée un décalage, moi, je trouve, et c'est assez inhabituel, d'ailleurs, dans cette décision qui n'est pas encore formellement prise et signée, actée. Mais faut se souvenir que pendant cette parenthèse du Covid, aussi dramatique, des épreuves avaient été annulées en série et elles n'avaient pas retrouvé une place au calendrier parce que le contrat en place et l'épreuve était, je dirais, perdue.
Oui,
tout simplement, elle n'était pas reprogrammée plus tard hors contrat. Je prends l'exemple du Grand Prix de France qui n'a pas eu lieu en 2020. On n'a pas dit, bon, on repousse d'une saison le terme du contrat. Donc, c'était comme ça pour tout le monde. Et là, on fait une petite différence quand même pour Imola. Alors, Stefano Domenicali, qui est le PDG de la Formule 1, il tient beaucoup à ce Grand Prix. C'est vrai que c'était une course qui lui tient à cœur. Mais...
parce qu'il est natif de la région. Mais alors, c'est parce que c'est le berceau de Ferrari, qui est le constructeur historique de la Formule 1, ou est-ce que c'est parce qu'il vient de là ? C'est toujours un petit peu compliqué de faire la différence.
Oui, toujours est-il que c'est un petit peu une exception parce qu'on parle aujourd'hui en fait d'une reprogrammation hors contrat en cours. Le contrat du Grand Prix d'Émilie-Romagne se terminait en 2025 et on a dit tout simplement qu'il y a de grandes chances, 99% de chances, on nous annonce de reprogrammer ce Grand Prix en 2026 et nous regarde un petit peu le calendrier déjà et ce calendrier qui se remplit pour les années 2024, 2025, 2026 et on constate qu'on nous a expliqué qu'il y a un nombre limité de courses pour l'Europe et c'est peut-être une course qui va prendre la place d'une autre course prestigieuse, tout simplement. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe, il y avait 24 Grands Prix normalement programmés pour cette année, et Stefano Domenicali a dit que ce sera un tiers, à peu près. Un tiers de Grands Prix, dont 8 en Asie, 8 sur le bloc Europe, et 8 en Amérique, dans les Amériques, à peu près là-dessus. Et on nous dit que 8, en tous les cas, c'est la limite en Europe, parce qu'il y a une forte demande en Europe. Et il y a des Grands Prix qui réclament déjà des courses ailleurs. Alors, on parle par exemple de la Malaisie, qui veut revenir au calendrier. Le gouvernement payait pour cette course-là pour avoir un rayonnement à l'international. Et c'est vrai qu'ils ont réfléchi. Maintenant, ils voient l'engouement que ça crée. Ils aimeraient retrouver cette course. On parle de l'Afrique du Sud. On est proche d'un accord, apparemment, pour le retour de cette course qu'on attend tous. Parce que si c'est un championnat du monde, c'est sur les 5 continents. Et ça fait quand même 30 ans maintenant que la dernière course en Afrique a eu lieu, en Afrique du Sud. Donc, ça serait bien maintenant d'avoir du concret là-dessus.
Ça serait juste.
Mais ça veut dire que ça fait deux épreuves supplémentaires. T'imagines, on avait normalement un calendrier à 24 dates cette année, ça en ferait 26. Mmh. Ça veut dire que ça va créer des décalages et il va falloir créer des alternances ou tourner. Bon, voilà. Mais sur 2025, je disais, donc c'est la fin normale du contrat d'Imola. Il y a déjà 20 Grands Prix sous contrat signés, dont 7 en Europe et 4 Grands Prix à renouveler, qui sont le Japon, Italie, Grande-Bretagne et Belgique. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'on parle de Suzuka, de Monza, de Silverstone
et de Spa. Enfin, tout à fait.
Quatre monuments du
voilà.
calendrier.
Et on a déjà 7 Grands Prix en Europe. Il y en a 3 qui sont en attente d'une prolongation ou d'un nouveau contrat, je dirais. Donc potentiellement, ça nous met à 10 Grands Prix. Alors, est-ce qu'on aura 10 Grands Prix en Europe ? Là, rien n'est moins sûr. Et puis, alors, Gilles, je te pose la question, en fait. Quid du Grand Prix de France ?
Je voulais pas t'interrompre.
Dans tout ça.
Je voulais pas t'interrompre, Stéphane, mais on a eu dans Les Fous du Volant, il y a quelques semaines, Jean Alési, qui est donc le patron du circuit Paul Ricard et qui essaye de faire revenir la Formule 1. On se souvient de ce qu'il nous a dit. Hein. Il faut que le président de la République soit au départ du Grand Prix. Moi, je pense que c'est aussi une façon de dire que... S'il y a le président de la République, ça veut dire que l'État met la main à la poche.
Un petit peu, oui, tout
voilà.
à fait.
Et les deux vont de pair. Mais ça veut dire que c'est une mauvaise nouvelle. Et encore une fois, je le dis, toute proportion gardée. C'est un drame. Il y a des gens qui ont perdu la vie. Il y a des familles qui n'ont plus d'endroit où vivre. Donc là, ce dont on parle, c'est vraiment mille
voilà,
fois moins important.
Tout à fait, tout à
mais
fait.
Bon, c'est juste une question pratique.
Voilà, nous on regarde ça du côté du sport simplement.
Paris-Cochet, c'est une très très mauvaise nouvelle pour des grands prix comme le Grand Prix de France, mais ça met aussi très très en danger le Grand Prix de Belgique.
Oui, et 2026, c'est pareil. Il y a déjà 14 Grands Prix sous contrat. On parlait de ceux qui voulaient rentrer. On nous a même parlé il n'y a pas longtemps d'un deuxième Grand Prix au Mexique. Bon, voilà. Il y en a 6 déjà qui seraient signés si on comptait pour l'Europe, hein, si on comptait Imola avec d'autres Grands Prix à recaser. Monaco, l'Italie, la Grande-Bretagne et la Belgique, c'est toujours la même chose. Ça veut dire que dans ces 4-là, il y en a quand même 2 qui vont sauter. Et je pense que la Belgique n'arrivera pas à retrouver une place au calendrier. Sans parler encore une fois de la France, du Castellet ou ailleurs. Hein. Ouais, donc bon, ça va avoir
pas,
un petit peu quelques...
Je ne vois pas comment tu peux faire une saison de Grand Prix sans Silverstone.
Oui.
Je ne vois pas comment tu peux faire une saison de Grand Prix de Formule 1 sans Suzuka.
Tout à fait.
Mais alors, j'ai envie de te dire pareil pour Spa.
Oui, tout à fait. Alors, il y a peut-être d'autres Grands Prix qui sont un petit peu menacés. Est-ce qu'on voit un intérêt maintenant à aller au Brésil ? Ça, c'est la question. Bon, il faudra organiser des rotations, mais je dirais que ça, encore une fois, ça posera un petit problème d'embouteillage, je veux dire, voilà, toute proportion gardée, on parle encore une fois du sport, hein, et on est loin de la réalité, de la triste réalité d'aujourd'hui, d'Imola, voilà, et qu'on aura plaisir certainement à retrouver l'an prochain au calendrier, puisqu'il est au calendrier 2024-2025.
je pose la question, il y a des grands prix où on se demande, et qui sont au calendrier 2024-2025, et on se demande s'ils auront lieu. Je pense au Grand Prix de Chine, par exemple, qui a été annulé cette année, alors qu'on savait très bien des semaines et des mois auparavant qu'il n'aurait pas lieu. Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'anticiper un petit peu ? Ça te paraît complètement fou ?
C'est vrai que ça n'a pas été anticipé l'année dernière parce que les autorités chinoises ont dit « c'est bon, on a une date au calendrier et puis le Grand Prix aura lieu ». Et puis après, les contraintes sur les mesures sanitaires ont fait que ça n'était pas réaliste d'accueillir du public dans les travées du circuit de Shanghai. Et donc la Chine a décidé de passer son tour. On ne sait pas ce qui va en être l'année prochaine, mais la Chine avait donné, enfin, s'était montrée optimiste et confiante jusqu'au dernier moment. C'est pour ça certainement qu'il n'y avait pas de plan B derrière. Bon, alors il faudra peut-être aussi construire un plan B derrière et mettre un Grand Prix en réserve éventuellement. Mais ça encore, il faudra le savoir assez vite. Et le Grand Prix avait été annulé tardivement et tu ne peux pas monter un Grand Prix en 2 mois. Quoi. C'est un petit peu... c'est trop juste.
Stéphane, on va terminer cette partie consacrée donc aux conséquences possibles de l'annulation du Grand Prix d'Émilie-Romagne, peut-être en disant un mot aussi de la relative déception des audiences globales du Grand Prix de Miami. Je dis ça parce que il se susurre que on aurait éventuellement passé le climax. De l'enthousiasme des nouveaux venus sur la Formule 1. Et je me dis à terme, est-ce que ça ne peut pas redonner quelques cartes en plus à l'Europe, qui est le berceau historique de la Formule 1 ?
Alors,
c'est un peu tiré par les cheveux, mais tu comprends mon principe ?
Mais je dirais que de façon réaliste, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut essayer d'attirer d'abord des sponsors dans ce sport pour que les équipes vivent mieux, qu'elles soient plus stables et donner des gages à tous les investisseurs qui voudraient à leur tour venir. Donc c'est ça qui est important. Et le nouvel Eldorado, ce sont les États-Unis de toute façon. Donc c'est pas cette partie du monde qui va céder une place. Je te parlais d'un deuxième Grand Prix au Mexique. On est dans cette logique-là. Donc je sais pas ce que pourrait faire l'Europe par rapport à ça. Mais tu as raison, les audiences du Grand Prix de Miami aux États-Unis ont été particulièrement décevantes par rapport à l'année dernière, parce que tout simplement, pour avoir des bonnes audiences, il faut faire une bonne course, c'est-à-dire avec des dépassements, avec de l'animation.
Je crois que c'est même avant ça, c'était l'attrait de la nouveauté. Comme il y aura cette année à Vegas, mais dès l'année prochaine, il n'y aura plus rien de nouveau. La passion, c'est pas, excusez-moi de vous dire ça, hein, bouchez-vous les oreilles, la passion, c'est pas un coup d'un soir. C'est au long cours aussi que ça se vit. Et j'ai le sentiment, je voulais pas te couper, mais tu nous dis le nouvel Eldorado, c'est aux États-Unis. Peut-être qu'on est en train de se rendre compte que c'est le nouvel Eldorado qu'on voudrait donner à la Formule 1, mais que c'est pas le véritable Eldorado.
Alors,
c'est un petit peu.
Oui.
Je dis pas qu'il y a pas d'engouement. Je dis que on force pas les choses.
Alors, Alpine, pendant cette course, a annoncé un sponsor, un partenaire américain. Il y a comme une certaine effervescence par rapport à ça. Puis, regarde un petit peu les marques qui sont engagées. Ce ne sont plus des marques techniques, je dirais, qui sont liées à l'industrie du sport automobile. Ce sont des marques, voilà, tout à fait. Donc, c'est ce que recherche un petit peu, c'est du niveau, si tu veux.
C'est
on
vrai
se rapproche
aussi.
Vraiment
c'est vrai
du niveau
aussi.
Des
c'est
Jeux
vrai.
Olympiques. C'est tout à fait ça. Quand dans d'autres... catégorie, on reste sur ces sponsors techniques plutôt. Alors, je pense à la MotoGP sans vouloir la citer, mais c'est un petit peu ça quand même. Donc, on a quand même élevé le niveau et c'est vers ça qu'il faut aller. Simplement, il y a peut-être un point d'équilibre à trouver et on a toujours aussi cette impression qu'on surfe encore sur la vague Netflix, mais j'ai l'impression que Drive to Survive, c'est devenu un petit peu maintenant un mythe, une légende, parce que on a en référence cette première saison qui avait été géniale.
Oui, qui avait fait un vrai boom, hein, clairement.
Tout à fait. Et moi, pour tout dire, Gilles, j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps que j'avais regardé simplement que les deux premiers épisodes de Netflix, de Drive to Survive de la dernière saison, parce que Esteban Ocon a dit encore une fois qu'il y avait eu un montage qui était pas, sincère.
Certains
tout à fait.
Propos avaient été utilisés dans d'autres circonstances.
Oui, des insertions de propos à la radio qui avaient été collés à l'arrivée de d'autres Grands Prix où, globalement, il disait qu'il était satisfait. Alors, l'occurrence d'une 8e place. Et bon, mais il s'inscrivait en faux par rapport à ça. Et je me suis dit, là, il faut arrêter parce que si on est en train de bricoler Si ça devient un petit peu du documentaire, un peu avec de la fiction autour, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est suffisamment riche ce qu'on vit, ce qu'on peut voir, pour ne pas aussi aller regarder sur des choses qui sont un peu romancées. Bon, donc il y a peut-être aussi un regard critique à avoir par rapport à ça. Verstappen avait fait un coup de gueule
clairement, oui.
Par rapport à ça. Voilà. Bon, mais globalement, le soufflet retombe un petit peu à ce niveau-là.
Exactement.
Voilà.
Alors, voir si il y aura pas aussi un retour éventuel d'ici quelques saisons sur le continent européen. Mais voilà ce qu'on voulait dire après cette annulation du Grand Prix. Et encore une fois, on envoie toutes nos pensées, nos ondes aussi positives qu'elles puissent être à nos amis, à nos familles en Italie après cette terrible épreuve des inondations. On va revenir maintenant un peu plus sur le terrain sportif, Stéphane, quoique, on va parler, donc on va revenir sur la silly season, parce que la semaine passée, Stéphane, on évoquait les potentiels mouvements qui allaient éventuellement agiter le paddock dans les prochaines semaines, les prochains mois, et on avait notamment dit que Carlos Sainz pouvait être le détonateur du marché. Et si, au lieu que ce soit Carlos Sainz, c'était l'échelon encore au-dessus avec Lewis Hamilton. Parce que, on l'a évoqué, on a dit, ça ne devrait pas bouger. Et oui, et il y a eu une petite phrase qui est sortie de Toto Wolff sur ESPN. Hein, c'est quand même pas le petit média avec son petit dictaphone. Cette phrase, la voici. Il parle des négociations avec Lewis Hamilton. Le contrat de Lewis Hamilton se termine à la fin de cette saison 2023. Écoutez ce que dit Toto Wolff. « Je veux ce qu'il y a de mieux pour lui, mais dans mon rôle, j'ai besoin de ce qu'il y a de mieux pour l'équipe. C'est peut-être la seule fois en 10 ou 11 ans que nous sommes ensemble que nos objectifs divergent. » Cette phrase, elle peut laisser entendre que le renouvellement du contrat entre Lewis Hamilton et Mercedes, c'est loin d'être fait, Stéphane.
Oui. Toto Wolff, il commence toujours un peu par des compliments quand il parle de Lewis Hamilton, sa contribution, son poids dans l'équipe, l'importance. Et là, il est détaché de ça. Il parle comme un manager qui ne sait pas s'il va continuer de collaborer avec l'un de ses employés. Point.
Quelque part, il met le mot équipe en opposition avec Lewis Hamilton. Moi, personnellement, c'est la première fois que j'entends une tournure de phrase comme ça.
Oui. Et c'est la première fois, oui, depuis des mois, qu'ils sont en négociation ou qu'en tous les cas, ils pensent à un nouveau contrat. Ils nous ont dit en fin de saison dernière, on fera peut-être ça cet hiver et on se donnera le temps. Ça devait être fait pour le début de l'année. Et puis, on pousse encore et encore. Alors, il y a déjà eu un cas de figure hein, après la déception de la perte du championnat en 2021. En 2021, Lewis Hamilton a signé dans la première semaine de février, je crois, ouais, son contrat pour l'année en cours. C'est-à-dire qu'au 1er janvier, il n'était plus un employé de Mercedes, ce qui était quand même assez incroyable. Il avait signé pour 2022 et 2023. Là, c'était plus sur va-t-il continuer. Il avait pris un gros coup sur la tête. Là, c'est autre chose, franchement. Et on est un peu dans la quatrième dimension. Alors, on avait dit que Sainz, c'était peut-être le maillon faible et que Leclerc, était en passe de signer un nouveau contrat chez Ferrari, ça c'est vrai. Voilà. Là, tout le monde s'active pour ça. Et Sainz, apparemment, c'est le baquet qu'aurait ciblé ou serait prêt à donner. Ferrari serait prêt à donner à Lewis Hamilton pour un méga contrat.
C'est ce que j'allais dire, c'est pas tout à fait donné. C'est pas tout à fait donné parce que ce qui crédibilise finalement les difficultés entre Mercedes et Lewis Hamilton, c'est que chez Ferrari, on vient mettre un coin dans cet accord avec John Elkann qui aurait proposé là aussi. Hein. Alors évidemment, il y a des médias qui reprennent et qui ne sont pas tous d'une fiabilité absolue, mais quand même, il y a des chiffres qui circulent. On parle de 40 millions de livres, donc 46 millions d'euros, c'est toi qui me faisais la conversion.
Et je ne sais pas si cette somme-là, à ce stade de sa carrière, l'impressionne.
Non,
du tout. Moi, le regard que j'ai là-dessus, c'est que je trouve vraiment que ça ne tient pas debout. Et que John Elkann, qui se met là-dedans, qui a mis un an ou deux ans à comprendre que Mattia Binotto n'était pas l'homme de la situation pour gérer l'équipe, il a enfin compris, puisqu'on lui a répété quand même plusieurs fois, il a enfin décidé de s'en séparer. Et que là, il se lève un matin en se disant, bah, tiens, j'aimerais bien avoir Hamilton, mais c'est une bonne voiture qu'il lui faut d'abord. Et moi, je trouve qu'il y a toujours un grand risque quand quelqu'un qui n'est pas sur le terrain commence à prendre un petit peu les choses en main et dire, c'est tel ou tel pilote qu'il nous faut. Alors, je vais rappeler un épisode qui était assez malheureux, finalement, fin des années 80, début des années 90. Ferrari engage Alain Prost. Tu dis, c'est fabuleux. Il y a Nigel Mansell avec. Mais oui, mais chez Ferrari, en fait, on a envie d'avoir Alain Prost et Ayrton Senna. Et on lui fait savoir. C'est catastrophique. C'est juste catastrophique. Et ça vient de Piero Fuzzaro, qui est le président de Ferrari, qui ne connaît pas grand chose au fonctionnement, je dirais, de la Formule 1 et des besoins de Ferrari, mais il se fait un petit peu un coup de pub là-dessus, et John Elkann qui se met dans la boucle comme ça en disant, apparemment il négocierait en direct avec Lewis Hamilton, je trouve ça un petit peu too much. En vérité, je ne comprends pas bien, et tu sais, la question qu'on pose, c'est il leur faut une bonne voiture. Eh bien, à l'époque, en 1990, Cesare Furio entame des négociations avec Ayrton Senna et il dresse un contrat. Cesare Furio va dans la résidence brésilienne d'Ayrton Senna et rédige un contrat. Et tout est prêt. Et pendant cette rédaction, en fait, Ayrton Senna lui pose des questions uniquement sur la technique. On lui demande, est-ce que ça te posera un problème de piloter avec Alain Prost ? Réponse, non. Mais les questions qu'il pose, c'est qui sera directeur technique ?
C'est ça.
Quels sont les techniciens ? Qu'est-ce que j'aurai comme moyen ? Etc. etc. Et aujourd'hui, Ferrari ne répond pas à cette question. Je dirais même, regardez bien l'organigramme de Ferrari, il n'y a pas officiellement de directeur technique. Je le rappelle, il y a un directeur châssis, alors Head of Chassis Department, enfin c'est quelque chose comme ça dans cette appellation-là,
Enrico
Cardile, voilà. Il y a un directeur du moteur, Enrico Gualdieri, très bien. Et il n'y a pas de boss en fait à la technique, et ce poste est toujours à pourvoir, je dirais tout simplement, parce qu'anciennement c'est Mattia Binotto qui l'occupait, il est parti, il n'a jamais été remplacé.
Il y a un vrai sujet parce qu'il y a plusieurs équipes en plus qui sont à la recherche de
Fred Vasseur a approché Pierre Vacher, on l'a dit la semaine dernière, réponse négative. Il a approché le chef aéro, réponse négative. Comment est-ce que tu veux, par rapport à ça, attirer Lewis Hamilton? Si aujourd'hui tu mets sur la table, Newey arrive, il te fait une voiture top,
et
en 2025, tu y vas.
C'est
clairement
clair.
Avec un contrat de 3 ou 4 ans, il a 38 ans, on voit ce que donne Alonso à 42 ans, c'est bon. Mais là, ça repose, je trouve, sur du sable.
Je suis d'accord, sauf que, je vais te dire, en ayant tourné le truc un petit peu dans tous les sens, je suis parfaitement d'accord avec cet argument de dire que Lewis Hamilton ne va pas aller chez Ferrari pour prendre un gros chèque, il ne roule plus pour l'argent, il s'est mis à l'abri et tous les siens depuis très très longtemps. Mais en même temps, je pense que chez Mercedes, on doit dire à Toto Wolff, au board de chez Mercedes, à quoi ça sert de payer un pilote 45-50 millions d'euros par an si la voiture n'est pas capable de gagner ? C'est rentable de donner 50 millions d'euros à Lewis Hamilton si à la fin il est champion, parce que tu retrouves déjà, tu reprends plus de droits si tu gagnes le titre constructeur, mais si tu ne gagnes pas le titre constructeur, si tu n'es pas champion du monde, les gens de chez Mercedes, ils disent, ça sert à quoi d'avoir Lewis Hamilton, d'avoir un si gros chèque ? Donc, je me demande, moi, si Toto Wolff n'attend pas aussi de voir ce que va donner la nouvelle Mercedes, là, pour voir. Parce que si la voiture est de nouveau capable de gagner, si l'an prochain, on peut estimer qu'on a une chance de gagner, alors il faut peut-être remettre de l'argent au pot. Sinon, ben, ça vaut peut-être pas le coup pour Mercedes. Ah oui, de garder un Lewis Hamilton.
Gilles, souviens-toi, ils ont eu Schumacher pendant 3 ans pour des résultats qui étaient quand même des résultats d'écurie vraiment challenger, on va dire ça comme ça.
Oui, oui.
Ils ont engagé à grands frais Lewis Hamilton en 2013. Il remporte une pole position, je crois, une victoire simplement. Donc ça veut dire là encore que c'était pas de l'argent investi à perte. Hein,
non, ça c'est clair.
Voilà, et il se posait beaucoup de questions, quand est-ce que les résultats vont arriver ? Bon, là, c'est la deuxième année. Moi, ce qui me surprend un petit peu, c'est que ça arrive dans une période où Mercedes n'a pas encore mis sa nouvelle voiture, sa version B, on va dire.
Qu'elle aurait dû mettre le week-end dernier
à Imola,
sur la piste.
Tout à fait. Et là, ils vont la mettre à Monaco. Ça va ressembler à rien du tout,
ben oui,
franchement.
Ça ne sera pas indicatif.
Ils vont enregistrer
quelques
datas dans le tunnel, en ligne droite, pour voir un petit peu ce qui fonctionne. Le reste, c'est de l'attraction, c'est des virages lents, ça ne sert à rien. Bon, voilà. Et ce que je ne comprends pas, oui, c'est que chez Mercedes, on en parle même, alors que James Allison, quand même, est sorti de, entre guillemets, sa retraite du côté du syndicat britannique de la Coupe de l'Amérique pour revenir aux affaires à plein temps. C'est un autre rythme de travail. Il était parti parce qu'il était certainement aussi usé. Il avait fait le tour de la question. Donc, on demande à des gens de bouger. On n'a pas encore le résultat de ce travail sur la piste. Et Ferrari balance cette information. Enfin, en tous les cas, fait transpirer cette information. Toto Wolff la corrobore d'une certaine façon. Je trouve que c'est un petit peu destructeur. Bon, alors, dans tout ça, ce que je ne comprends pas, finalement, c'est que dans l'état actuel des choses, Hamilton, chez Ferrari, ce serait changer de problème, mais pas de résultat.
C'est vrai.
C'est
vrai. Mais tu te retrouves avec un septuple champion du monde dans une voiture au cheval cabré. Et
mais
on sait que
John
Elkann, il aimerait ça.
Gilles, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il a envie d'ajouter son nom aux derniers pilotes en date qui ont débarqué chez Ferrari et qui n'ont pas été champions du monde ou ça s'est terminé par un gâchis. Je te donne des noms simplement. Mansell, Prost, Alonso, Vettel. Hein. Voilà, donc il a envie de mettre un nom supplémentaire. Moi, je trouve que...
Me dispute pas, Stéphane.
Non, mais c'est cassé une belle idée que Mercedes, c'est pour la vie. Et puis, je te rappelle quand même, c'est ça aussi, moi, pour moi, qui est incohérent complètement par rapport à ses engagements. Ignite, c'est le programme qui vise à apporter de la diversité dans le sport automobile, dans la Formule 1 spécialement.
Et ben ça, pour moi, c'est le plus gros argument qui va retenir Lewis Hamilton chez Mercedes. Parce que, et c'est là qu'en
fait... Ce programme est financé par la fondation Hamilton, par Hamilton lui-même et par Mercedes, qui en attend des retours et des résultats. Et ce programme est développé spécifiquement en Angleterre, en Grande-Bretagne. Je ne vois pas stopper tout ça. Et poser la question à Ferrari, est-ce que vous pouvez faire la même chose en Italie? Il n'a pas de connexion, c'est autre chose. Il viendrait pour le sport, mettre tout ça en place. Enfin, je ne vois pas à quoi ça rimerait.
Je vais te dire, je pense que c'est contextuel. Parce qu'il n'y a pas grand-chose en ce moment sur la F1 avec l'annulation du Grand Prix de Chine qui a laissé un mois béant sans épreuve. Là, malheureusement, l'annulation en Émilie-Romagne, celle-là, elle est parfaitement justifiée. En même temps, John Elkann, le fait de dire ça, il fait monter un petit peu les enchères. Plus Mercedes va dépenser d'argent pour garder Hamilton, quand bien même il le garderait, ça sera une bonne affaire pour Ferrari de voir finalement un adversaire mettre plus d'argent que ce qui était prévu. Et puis Hamilton, il laisse faire parce que lui aussi, ça fait monter un peu sa cote. Et c'est très très bien, même si ça ne se fait pas. Après, Hamilton pourrait retrouver Fred Vasseur aussi chez Ferrari. Ça peut être aussi
son patron du GP2 et de la F3.
Avec lequel il avait été champion en GP2 en 2006. Quand tu vas chez Hard Grand Prix, la voiture de Hamilton... Elle est dans le hall, elle est toujours là, elle n'a pas bougé d'un iota, elle est sublime. On verra tout ça. Est-ce qu'on se risque à donner une probabilité de réalisation
1 pour 1000.
D'accord. 1 pour 1000. Ah oui, d'accord.
Au stade où il est dans sa carrière, tu vois, il y avait un mouvement que je n'avais pas très bien compris, c'était Schumacher. Il gagnait tout chez Benetton en 95, le moteur Renault était fantastique, il avait tout pour lui. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas un salaire de star. Il avait rejoint Ferrari, mais avec un programme, on l'a bien compris, après, sur 10-11 ans. Ça, c'était cohérent. Il était jeune pilote. Là, il est en fin de carrière, Hamilton. Et si ça échoue, il va rater sa sortie. Je veux dire, un grand champion réussit toujours sa sortie.
Eh bien, on verra ça. Mais donc, 1 pour 1000 du côté de Stéphane Vrugno. Allez, je dis 25%, moi, de mon côté, pour voir... Lewis Hamilton chez Ferrari. Alors, on se prépare quand même à ce Grand Prix de Monaco et on se demande, on attend quand même la première défaite de Red Bull depuis le début de la saison, savoir qui va pouvoir faire tomber Max Verstappen et Sergio Perez de la première place du podium. Hein. On a disputé 5 Grands Prix, 5 victoires pour Red Bull. Et il se dit que c'est à Monaco que la fenêtre serait la plus importante. Alors, déjà, mettre une chose bien au clair, les Red Bull restent favorites, Stéphane, à tes yeux ou pas?
Encore plus que l'année dernière. La surprise l'année dernière, c'est que c'était Perez qui l'avait emporté. Verstappen n'était pas à l'aise sur le premier freinage du premier virage et ça mettait complètement, hors du coup. Sur le reste du tour, il perdait un peu plus d'un dixième et ça suffisait pour le mettre hors jeu. Checo Pérez est donc le dernier vainqueur en date. Verstappen a gagné les 2 éditions précédentes. Donc Red Bull reste quand même favori. Mais on a vu dans l'histoire de ce Grand Prix que Quand les stratégies sont mal appliquées, quand il se passe quelque chose qu'on ne sent pas bien ou qu'on prend des risques, alors Ricciardo peuvent en parler, ainsi que Hamilton peuvent en parler, et puis Leclerc l'année dernière.
C'est ce que j'allais dire, on va y revenir.
Ça veut dire
évidemment.
Que sur un coup de dé, on peut avoir un challenger qui remporte cette course.
Alors, on le dit bien, Red Bull reste favori, mais la possibilité des autres de battre Max Verstappen et Sergio Perez est sans doute plus importante ce week-end à Monaco que sur les autres Grands Prix. Et notamment, donc, on va commencer par Fernando Alonso qui dit que c'est en principauté. Il dit peut-être Monaco, peut-être Barcelone. Alors, je comprends
parce que c'est à la maison quand même.
On a une chance.
Et
voilà.
Puis c'est sa dernière, encore les 10 ans de sa dernière victoire. Ouais. Bon, ça serait aussi une belle façon de boucler la boucle.
Alors, on peut essayer de comprendre les chances de Fernando Alonso, qui a quand même terminé 4 fois sur le podium cette saison. Logiquement, la prochaine étape, c'est d'aller en chercher une. Ça serait la 33e victoire dans la carrière de Fernando Alonso. Et ça va se jouer en grande partie lors de la qualification, parce que c'est là que statistiquement, à Monaco, vous faites la pole, vous êtes quand même bien placé. Et la Red Bull est un tout petit peu moins efficace que certaines de ses rivales directes. On pense à l'Aston Martin, on pense à la Ferrari, pour mettre les pneus avant en température. C'est ce qui les a mis parfois en difficulté en qualif. Difficulté relative, 5 Grands Prix, 4 pole positions pour Red Bull, une pour Ferrari, et donc 0 pour Aston Martin. Là, il faudrait que Fernando Alonso aille chercher déjà la première étape, c'est d'aller chercher la pole position. Sauf que ce n'est pas franchement l'exercice favori. Et d'ailleurs, Monaco, pour Fernando Alonso, Stéphane,
c'est pas la grande réussite.
Tu as épluché les statistiques. Mais c'est quand même pas son jardin.
Question pole position, il en a fait 2. Et puis,
à Monaco.
Ça, voilà, tout à fait. Et ça représente sur combien d'ailleurs on avait regardé ?
Sur 22.
22, ouais. 22 pole position. Concernant les victoires, c'est pareil. Ce n'est pas l'homme des circuits en ville. 5 victoires en 32 en tout. 2 à Monaco, 2 à Singapour et 1 à Valence. Point. Donc, c'est pas dingue, je trouve. Et Fernando Alonso, c'est 3 podiums à Monaco, en plus de ses 2 victoires, coup sur coup pour Renault en 2006 et McLaren en 2007. C'est une 3e position avec Ferrari en 2012. Donc, je trouve que c'est pas extraordinaire.
Et un podium sur toute la période Ferrari.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça peut être l'objet de désillusions importantes. 2004, il tape en se précipitant pour doubler Ralf Schumacher dans le tunnel, s'il vous plaît. Alors là, il faut être gonflé quand même. Et puis en 2010, c'est quand même la boulette. Il tape en fait en haut de la montée de Bourrivage. Il tape à Massenet, je crois.
Oui.
Et sa voiture n'est pas réparée pour la qualif. Il part dernier. Et je pense que c'est ça qui lui a d'ailleurs coûté le titre mondial. On peut toujours trouver beaucoup d'endroits différents. Mais là, ça a été une faute personnelle. À un moment du week-end où tu n'as pas attaqué, surtout pas. Bon, voilà. Et donc, ça veut dire que c'est même pas tout ou rien. C'est des qualifications généralement 4e, 5e, 6e avec une bonne voiture, on voit historiquement. Et c'est quand même essentiel à Monaco. Donc, c'est là où, pour moi, il y a un souci. Il va falloir qu'il surperforme, clairement.
Et alors, il y a non seulement déjà la performance intrinsèque de Fernando Alonso, qui n'est pas forcément sur son terrain de prédilection à Monaco. Il faudrait aussi, en termes de stratégie, qu'il ait un coéquipier qui lui permette de mettre en échec une éventuelle stratégie. Quand bien même il viendrait à partir de la pole position devant les Red Bull, il faut ensuite qu'il ait un coéquipier qui lui permette de mettre en échec la stratégie des Red Bull. Et Lance Stroll, il est nulle part depuis le début de la saison.
Il est incapable de l'aider. Alors, l'avantage, c'est que normalement, il ne l'aura pas devant lui sur la grille. Il l'a battu 5 fois.
Oui,
en 5 séances de qualif depuis le début de la saison. Donc ça, c'est réglé, on va dire. La seule chose que peut faire Stroll, c'est lui filer un coup d'aspi. Mais c'est super risqué. Je ne vois pas
à
trop
Monaco,
l'objet.
Ouais,
à Monaco, dans le tunnel. Waouh. Non, ça ne se fait pas, quoi. C'est chacun pour soi, point. En plus, il y a tellement de trafic, le circuit est tellement petit qu'on ne peut pas inventer ce genre de stratagème. Ça, c'est vraiment
abracadabra. Dans les difficultés dans lesquelles Stroll est en ce moment, Monaco, là, il va falloir survivre
pour
le Canadien.
Et je dirais aussi que la petite difficulté, et ça, c'est une petite faiblesse qu'on commence à voir chez Alonso, c'est la gestion du premier tour. Parce que normalement, c'était Fort Knox sur les départs, sur le premier tour. Bon, cette année, à 3 reprises, sur les 5 Grands Prix, il a perdu 1 ou 2 places au départ. 2 places, je vois, à Bahreïn et une place en Australie et en Arabie Saoudite. Et ça, à Monaco, c'est interdit.
Il part quand même beaucoup mieux placé cette saison que les saisons précédentes.
Oui, mais ça ne change rien. Je dirais qu'il ne tient pas sa place. C'est ça la problématique. C'est ça le vrai souci, quoi. Et ses qualifs sont en progression. Je vois 5e, 3e, 4e, 6e et 2e, ce qui n'est pas rien. Donc, s'il y a un gros coup à faire, c'est ce week-end impérativement. Avec, pour les courses, tu parlais de la stratégie. Je vais te parler des pit stops qui sont un petit peu compliqués aussi parce que Aston Martin n'a pas fait un seul top 5 dans les meilleurs chronos enregistrés dans les interventions des pit crew cette saison. Donc ça, c'est un vrai souci. Et là, il faut s'activer là-dessus parce que Ferrari a quand même de meilleures références.
Alors, vous savez qu'on s'approche des 24 heures du Mans. On vous prépare un petit cadeau, un entretien avec Benoît Trélu-Yet, qui est triple vainqueur des 24 heures du Mans. Et on lui a demandé à Benoît Trélu-Yet ce qu'il pensait des chances de Fernando Alonso d'aller chercher la victoire à Monaco et de mettre en échec les Red Bull. On écoute.
Bah, je crois qu'il a une chance, oui, mais je pense que ça reste... Monaco reste Monaco, il faut faire la pole. Après, c'est sûr qu'il est dans un état second, on va dire, hein, parce que ce qui lui arrive...
Il est en lévitation, là.
Complètement, c'est du délire, c'est génial. Même si ce n'est pas un pilote que j'apprécie particulièrement, il ne faut pas lui retirer ses qualités. C'est quand même un grand pilote, il l'a prouvé à maintes reprises. Maintenant, un excès de confiance à Monaco, ça peut faire mal. Donc, ça va être tout ou rien, à mon avis. Il a beau avoir de l'expérience, quand on est dans un état comme il est actuellement de confiance, ça peut jouer des tours. Après, alors moi, j'aime beaucoup Charles Leclerc. Je ne le connais pas personnellement. Je l'ai croisé seulement, mais je trouve qu'il a une patience et incroyable et j'espère sincèrement qu'il va finir par le gagner Monaco. Je pense qu'il a des chances malgré que la Ferrari soit pas trop dans le coup. Monaco, ça reste Monaco. Il a prouvé qu'en qualif il est capable de faire encore quelque chose et Alonso va pour moi tenter le tout pour le tout. Il a rien à perdre. Je veux dire, il a été régulier depuis le début. On peut pas être plus régulier. Donc en qualif ça va être banzai, c'est sûr. Il se met dans le mur, personne n'y en voudra, tout le monde dira ah ouais, il est à chercher, ce sera la star quand même. Donc je pense que je pense qu'il risque d'y avoir un excès de confiance. Et maintenant si c'est chapeau, hein, s'il accroche avec Aston Martin à 42 ans Monaco, je veux dire, le mec on peut rien dire, quoi. Il a même pas besoin d'aller à Indy 500 pour essayer de les regagner, quoi.
Alors, ce qui est intéressant, Stéphane, c'est que naturellement, on le voit bien avec Benoît, on parle de Fernando Alonso et on glisse sur Charles Leclerc et sur Ferrari. On est obligé d'en parler.
Oui, voilà. Oui, voilà.
Parce que il est monégasque, évidemment. Mais c'est lui qui a remporté. Enfin, c'est lui qui a. Il a rien remporté, malheureusement, le pauvre, à Monaco. C'est lui qui a réalisé les deux dernières pole positions, trahi par sa transmission en 2021 après avoir tapé
c'était une faute quand même,
voilà,
clairement.
C'était une faute et puis une pagaille pas possible en termes de stratégie l'an passé alors qu'il était devant.
C'est allô, t'es où, tu fais quoi?
C'est ça.
C'est pas à peu près ça.
Moi, je suis dans les stands.
Ouais.
Voilà. Bon, donc ça avait été terrible. Est-ce que Charles Leclerc, qui est le seul à avoir pu enlever une pole au Red Bull cette saison, est-ce qu'il peut de nouveau le faire ce week-end chez lui à Monaco?
Je le dirais complètement. Ouais. Là-dessus, parce que il y aura pas de problème de pneumatique du jour des pneus. C'est ça qui est un petit peu chaotique chez Ferrari. Les pneus fonctionnent ou ne fonctionnent pas, ils savent pas pourquoi. Donc ça, c'est le vrai souci. Mais pneus tendres, normalement. stratégie à un arrêt qui est claire si. Il fait beau, donc ouais.
Sauf que
c'est limpide.
C'est pas exactement là la météo. Je crois qu'elle donne un petit peu des sueurs froides un peu à tous les responsables d'équipe, parce que c'est pas tout à fait ce qui est annoncé. Mais Charles Leclerc, ça paraît finalement peut-être même plus que Fernando Alonso, celui qui peut empêcher les Red Bull de tourner en rond.
Oui, bien sûr. Et là, il devra battre d'abord Sainz en qualif, parce que je vois ça fait 3-2. Dans l'exercice des qualifications cette année, avec un peu quand même des montagnes russes. Hein. Pour Charles Leclerc, je vois ses résultats 3e, 2e, 7e. Une pole et re-7e. Bon, donc c'est chaotique. Et là, maintenant, il faut resserrer les boulons et aller chercher cette pole position qui sera peut-être le passeport pour enfin sa première victoire. Et alors, je te parlais à propos d'Aston Martin des interventions au stand. Eh bien là, pour Ferrari, c'est pas mal du tout, puisque Ferrari a réalisé le pit stop le plus rapide depuis le début de la saison en 2 secondes 10 à Jeddah. Et c'était pour Charles Leclerc. Et ça, ça va être impératif de choisir le bon moment, de se mettre à l'abri d'un undercut, voilà, et puis d'intervenir pour garder ses chances. Alors, s'il est en pole position et s'il fait beau et que c'est à un arrêt, il a une petite chance de l'emporter parce que normalement, bah, tu ne passes pas. De toute façon, à Monaco, il ne faut faire que du pilotage défensif. Et à partir de là, ça ira. La petite difficulté quand même, encore, quand on regarde les stats de Charles Leclerc, c'est que c'est 19 pole positions transformées seulement 4 fois en victoire. C'est trop peu et il faut maintenant passer à l'étape supérieure. Il est chez lui, il en rêve. Il va certainement avoir beaucoup de pression. Le week-end de Miami qui a raté est un petit peu loin maintenant, donc ça va. Et on espère qu'il va redémarrer du bon pied tout de suite pour être le vrai challenger de Verstappen et de Checo Pérez.
Alors, je te parlais des conditions météo. Pour l'instant, on nous annonce des possibilités de petites averses.
Oui.
Dimanche après-midi sur le Rocher, on est encore un petit peu loin, hein. Évidemment, vous savez qu'on enregistre les fous du volant, on est en début de semaine, donc ça peut encore évoluer, mais ça veut dire que ça va quand même être un Grand Prix intéressant. Et est-ce que en fait le Grand Prix va pas surtout s'agir d'une qualification samedi?
Alors moi, j'étais en train de réfléchir en me disant qu'il faut vraiment que tout se passe bien, parce que chez Ferrari, quand il faut un peu faire les, entre guillemets, jouer un petit peu finement sur la stratégie...
ça leur a pas trop réussi ces derniers temps.
Exactement. Donc, la qualif, oui, certainement, avec du beau temps dimanche, et c'est là que ça viendra possible. Autrement, franchement, s'il pleut, s'il faut être réactif, on sait qu'ils ont des meilleurs stratèges chez Red Bull, et surtout, ils auront 2 pilotes contre 1. Donc, quadrature du cercle.
Ouais, c'est ça. C'est que chez Red Bull, on a évidemment Max Verstappen, on a Sergio Pérez, et on est face à 2 éventuels challengers, Fernando Alonso, qui n'a pas vraiment de coéquipier. Chez Ferrari, attention à Carlos Sainz, qui a déjà fait des podiums en principauté. Ça peut jouer,
oui,
quand même.
Et puis, au fond, on pense juste au Factor X, mais ils sont tellement loin. Les Mercedes... ce serait vraiment une énorme surprise que la voiture soit dans le coup.
Et on imagine, parce que on va aussi découvrir les évolutions chez Mercedes. On a dit que quand bien même le Grand Prix d'Émilie-Romagne était annulé, on apporterait les nouvelles pièces, les évolutions sur la Mercedes. On voit pas comment on peut, parce qu'après il faut s'engager quand même à fond dans le tunnel avec une voiture qu'on connaît pas trop. Bon, c'est là qu'on voit les pilotes et les conducteurs lambda comme nous.
Oui,
mais ça peut être le facteur X de ce Grand Prix aussi.
J'y crois pas trop, franchement. Et tu regardes, Hamilton a dû gagner, je crois, en 2019, mais après c'était beaucoup plus compliqué. Il avait fait des très mauvais Grands Prix, des week-ends vraiment transparents, fantomatiques à Monaco. J'ai peur qu'il faut encore attendre un petit peu pour voir vraiment la Mercedes, par exemple, en Espagne, vraiment sur un circuit beaucoup plus adapté à des qualités routières d'une voiture, pour commencer à vraiment progresser.
Juste pour conclure, on a parlé des challengers des Red Bull. Il y a aussi une importance stratégique là, pour Sergio Pérez face à Max Verstappen. Lui aussi doit finir devant son coéquipier, parce que sinon l'écart va commencer à se creuser. Et ça justifierait de donner quelques consignes à son détriment. Donc là, il va vraiment falloir être devant, hein, pour Sergio Pérez.
Oui, et puis je pense que Verstappen le vivrait d'autant moins bien s'il se faisait battre, ou que c'est là qu'il y a un an avait commencé cette polémique, oui, dont on ne sait pas si elle est fondée ou pas, mais qui
Verstappen
avait provoqué...
avait sous-entendu que, ouais, Sergio Pérez avait fait exprès de se mettre en tête à queue quand il avait le meilleur temps en qualification, pour, oui, l'empêcher d'améliorer.
Ouais, tout à fait.
Et c'est là que ça avait commencé un peu à tirailler entre les deux.
Ouais, tout à fait, et avec des consignes ignorées superbement par Verstappen en fin de saison. Mmh. Donc, je pense que Verstappen a de la mémoire. Hein.
C'est, oh oui.
Voilà, c'est pas pour dire qu'il est rancunier, mais il a de la mémoire, on va dire. Et il a un petit compte à régler avec Monaco et avec Pérez. Et je pense qu'il rêve de le faire ce week-end à Monaco.
On va vous donner les horaires de ce Grand Prix de Monaco, quelques-uns des horaires. Hein. Le début, les premiers tours de roue vendredi 13h30 pour la première séance d'essai libre. Il y en aura une seconde un petit peu plus tard dans la journée. La qualif samedi à 16h, c'est déjà là qu'il faudra être devant vos écrans et vos chronos. Et puis enfin, dimanche, le départ du Grand Prix de Monaco, ce sera donc à 15h. Et on reviendra évidemment sur cette épreuve dans les fous du volant la semaine prochaine. Ce podcast, qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles, évidemment, si vous avez été content de ce que vous avez entendu. Enfin, si vous êtes encore en train de nous écouter, c'est qu'a priori, ça n'a pas dû trop vous déplaire. Et puis, pensez aussi à vous abonner. Et de cette manière, eh bien, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane ?
Avec un petit bonus podcast spécial avec Benoît Trélouillet.
Ça sera
au sujet des 24 heures du Mans.
La semaine des 24 heures du Mans. On vous en reparlera, vous inquiétez pas. On a enregistré ça, c'est passionnant d'écouter le triple vainqueur des 24 heures du Mans. Mais c'est pas pour tout de suite. En attendant, on va vivre ce Grand Prix de Monaco le week-end prochain. Et nous, on se retrouve quelques heures plus tard, en début de semaine prochaine. Et d'ici là,
on coupe le contact.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.